Bonjour Bruno.
Bonjour Marin. Alors ça va maintenant, tout va bien après quelques mois. Tout est perfect. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va reparler d'Angoulême. C'est pas une facilité, c'est plutôt presque une nécessité. Mais Angoulême, alors on a évoqué à plusieurs reprises les polémiques qu'il y a, et comme l'a très bien dit Iris Puy la semaine dernière, il y a un côté très pesant qui, dans ces polémiques, ben, abîme vraiment ce que peut être Angoulême. Moi, je voudrais revenir sur les prix, parce que ces prix ont une certaine histoire, et une histoire certaine. Donc, aujourd'hui, on va évoquer un prix assez essentiel parce que peu de festivals affirment une relation, un engagement avec la bande dessinée contemporaine, et souvent les auteurs primés sont des auteurs qui sont déjà quand même reconnus. Donc il y a au Festival d'Angoulême le Fauve Révélation qui cette année a joué une nouvelle fois pleinement son rôle. Et en primant Camille Pott pour ses Ballades, Ballades avec deux L, eh bien le jury récompense une écriture incisive, mordante, une esthétique choisie, une création libre. Eh bien, on sera avec Camille Pott vers 14h15 pour qu'elle nous conte ses Ballades. À tout de suite. Écriture dessinée. Alors, la programmation musicale a été choisie par Camille Pott. Il y a Nefertiti, un morceau d'un rappeur qui chante en français. Il y aura Abreuvoir et puis aussi un morceau plus électro. Alors, on va commencer vraiment par ces prix parce que ça n'a rien d'anodin. Effectivement, affirmer un prix, c'est un engagement pour un festival. Et donc, il n'y a qu'à voir pour le Grand Prix, il y a eu un peu une polémique parce qu'on avait primé Anouk Ricard, qui n'est pas forcément l'autrice qui a l'œuvre la plus influente. Et pourtant, je pense qu'il y a des sortes de systèmes, de classes, de clans, où finalement on choisit ses pairs et on a du mal lorsque un auteur n'est, que l'on souhaite voir primé n'est pas récompensé. Il y a eu, avec les premières nominations, un principe de grand jury qui était composé par tous ceux qui avaient été récompensés pour l'ensemble de leur œuvre. Alors certains étaient décédés, n'étaient pas bien sûr remplacés. Et donc, à un moment, ces auteurs-là ont été accusés de promouvoir les gens de leur sérail, les auteurs de leur sérail. Alors on a fait voter les auteurs et autrices eux-mêmes pour que ils et elles puissent choisir les auteurs qui les correspondaient. Alors cette année, on avait Alison Bechdel et Catherine Meurice et Anouk Ricard, et c'est Anouk Ricard qui a été choisie. Alors la polémique qui s'en est suivie, légère mais qui n'a aucun intérêt, voulait dire, mais il y a d'autres auteurs, les Catherine Meurice ou Alison Bechdel étaient tout aussi pertinentes. Bah, bien sûr, elles sont tout aussi pertinentes. Mais ce qui est important dans le choix d'Anouk Ricard, c'est pour moi d'abord cette liberté de création. C'est un nomadisme créatif qui fait qu'il n'y a pas simplement une écriture en bande dessinée, qu'il y a aussi tout un travail d'illustration, de graphisme dans différents domaines. qui fait que déjà le rapport au dessin n'est pas uniquement à travers la narration et le temps d'un récit en bande dessinée. Il y a aussi une approche du livre jeunesse qui est tout à fait convaincante et qui montre que l'album jeunesse est aussi un lieu, un moment narratif où les auteurs font œuvre. Et ça a été un des très grands problèmes des journalistes en bande dessinée, c'est de considérer que lorsqu'on écrivait pour la jeunesse, et pour Tintin, Hergé, Tilleul, pour Hergé, Franquin, Tilleul, Machereau, il a fallu très longtemps pour qu'on reconnaisse que ces auteurs, ces artistes, faisaient œuvre avec leur bande dessinée, alors qu'ils avaient déjà plus de 30 ou 40 ans. Et donc, c'est très important de garder à l'esprit que la littérature jeunesse permet de faire œuvre. Il est incontestable aujourd'hui que des auteurs comme Solotareff, comme Ungerer, sont des auteurs grandioses aussi par leurs livres pour la jeunesse. Donc, avec Anouk Ricard, il y a vraiment cette expérience de liberté auxquelles nous sommes conviés, qui, dans la bande dessinée, trouve aussi sa propre dimension, et qu'il y a derrière la carrière d'Anouk Ricard, qu'il y a derrière le nom d'Anouk Ricard, une carrière déjà très importante, et qu'il ne cherche pas non plus à faire école, et c'est peut-être aussi ça qui est récompensé. Elle est elle-même, et manifestement, ça lui réussit bien. Donc, Anouk Ricard, Grand Prix de la ville d'Angoulême. Donc, c'est une consécration. Et il y aura donc une exposition, j'espère, de grande ampleur pour la célébrer. Virgule. Alors, on pourrait comparer Angoulême et Cannes. Cannes a réussi ça. Alors, bien sûr, il y a la durée, mais le Festival d'Angoulême avec sa 52e édition, ses 52 éditions, eh bien, a montré aussi une très longue durée. Mais il y a des prix vraiment qui marquent et qui marquent au-delà du temps du festival. Il y a donc dans ce festival qui a lieu au mois de janvier, eh bien cette importance qui permet aux livres primés de durer un peu plus dans le temps. C'est relativement récent, mais maintenant tous les éditeurs affichent les prix qu'ils ont pu gagner à Angoulême, alors que par le passé ce n'était pas le cas. Il y avait des éditeurs qui disaient « de toute façon, ça ne changera rien ». Et ça, vraiment, ça commence à changer. Et le prix spécial du jury a été décerné cette année en territoire ennemi de Carole Lebel. Il me semble assez essentiel de faire de faire une présentation un peu approfondie, précise de ce livre, qui est une sorte de récit autobiographique. Alors, bien sûr, comme dans beaucoup de récits autobiographiques, il y a de l'espace pour de la fiction, pour compléter des moments qui n'ont pas forcément été mémorisés ou traduits dans des carnets qui permettraient de les remettre à jour. Mais il y a à la lecture vraiment cette intensité d'une écriture du jeu qui est essentiel. Et donc, cette présence affirmée de ce jeu va très vite, dès les premières pages, prendre son ampleur. Alors, Ça démarre, elle est ado, Carole Lebel est dans son milieu familial, et il y a très souvent des visites, des vacances chez les grands-parents, grands-parents maternels, avec un papy qui va parler de la guerre, et donc cette envie d'écouter toujours à chaque fois la façon dont le grand-père va parler de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, des nazis, et avec toujours cette phrase de conclusion, plus jamais ça. Alors, très vite, on est donc avec cette question de la transmission, qu'est-ce qu'elle va représenter, comment a posteriori on peut comprendre et analyser quelles ont été les traces qui ont été faites dans la mémoire et dans l'esprit de la jeune fille qui était Carole Lebel à l'époque. Il faut rajouter à cela une mère chrétienne, catholique, plutôt intégriste, absolument contre l'avortement, et qui va semer aussi d'autres idées qui vont prendre une place et vont revenir à certains moments pour, dans l'esprit de Carole, avec par exemple la contraception est contre nature, sans aucune analyse associée. Ce qui est très important en territoire ennemi, c'est la gestion du temps du récit qui va permettre à Carole Lebel de vraiment déployer une situation, de la tirer au maximum, et qui fait qu'il va vraiment y avoir une nouveauté dans cette écriture. Excusez-moi, j'ai encore un reste de toux, alors j'espère que je ne vais pas me répondre au micro. Mais en tout cas, dans le récit de Carole Lebel, il y a cette façon de retracer une vie. Et on pourrait se dire, bon ben voilà, il y a eu la rencontre avec un homme très séduisant qui sort Camille Lebel de sa solitude et qui fera que il y aura une sorte de soumission quasi automatique à cet homme et qu'on va être encore sans arrêt dans ce type de discours. Pas du tout, pas du tout. Effectivement, cette position est très importante. Ce qui est d'autant plus remarquable, c'est la façon dont Camille Lebel va parler de ce ressenti à l'intérieur, va parler de cette relation avec un homme qui effectivement va l'aimer alors qu'elle est très seule, va lui permettre de se sentir heureuse. Et puis, elle va montrer comment les choses vont se gâter, comment le quotidien va déraper avec des points très anodins, des situations assez courantes, mais qui dénotent des changements de la part de son conjoint. Et puis, ça va aller de plus en plus loin. Ça va devenir même très inquiétant. Il y a une radicalisation qui va se faire, et notamment par la découverte d'Internet. Et donc, son compagnon, Stéphane, va exprimer sa volonté de se renseigner, de lire de plus en plus. Il va apprendre l'allemand, il va suivre Alain Soral, il va y avoir une droitisation et une extrême droitisation qui va être de plus en plus intense. Et il y a les enfants. Une des très grandes forces de ce récit, c'est de parler des enfants de façon assez libre, sans avoir cette sorte d'obligation morale à tout faire pour ses enfants, à être d'une abnégation complète, sous prétexte que ce sont ses enfants. Un peu dans la lignée de ce que lui disait sa mère. Et là, Camille Lebel est une très grande justesse, parce qu'elle arrive vraiment à trouver les mots qui lui permettent de prendre du recul sur ce que représentent ces enfants par rapport à la soumission et par rapport à la violence de son compagnon qui, finalement, l'a colonisé par ses grossesses et son corps a été colonisé. Le mot est très fort, mais c'est la grande force de en territoires ennemis, c'est d'être capable de faire ressurgir ces mots dans l'écriture de ces cette cinquantaine d'années qui est exprimée. Les enfants grandissent, donc on va vraiment avoir le développement des différentes situations. Et là aussi, on va aller au-delà de la séparation. Et qu'est-ce qui reste ? Comment sommes-nous une fois que la séparation est effectuée. Là, il y a une grande écriture qui est portée par un dessin qui fait partie de cette école où on a par exemple des autrices comme Florence Dupré-Latour qui cette écriture très incisive avec un dessin très simple et qui est capable avec de parler de choses très intimes, des auteurs comme Copy, comme par exemple La femme assise, où on a une sorte de mise en scène assez minimaliste avec trois bandes d'images assez régulières, ou quatre, mais une absence de cadre. Et là, Camille Lebel maîtrise parfaitement cette écriture et fait qu'on a une bande dessinée dans laquelle le lecteur s'immerge très facilement, sans spectaculaire, sans effet, mais en étant toujours au plus près du récit. Le dessin va donc être simple, mais intense, parce que c'est la grande force de la bande dessinée, et elle le dit à un moment, un dessin ne ment pas, même s'il est simple dans sa forme, il peut être très intense dans son contenu, parce qu'il va être la représentation exacte du moment, d'un moment du récit. Et cette succession d'images justes pour chaque moment du récit fait œuvre. Très beau livre qui mérite pleinement son prix, et c'est toujours une bonne chose de savoir qu'un prix est très bien décerné. Donc, En territoire ennemi de Camille Lebel est un livre qui a été publié par les éditions de l'Association, qui est un éditeur qui a une très belle histoire aussi. On en reparlera très prochainement. Et ce livre de 224 pages est au prix de 26 euros. Musique.
Du coup on fait ce qu'on veut. high as fuck, ça plairait pas à Bill. Je suis high as fuck, ça plairait pas à Bill. Les voisins se plaignent parce qu'ils savent pas rapper. Je suis sur la vague comme si j'avais pied. Je casserai la porte même si j'ai la clé. Je peux pas attendre le jour d'après si je suis au B. Si t'es ok, on le fait ensemble.
Les contes dans ces différents genres sont des récits millénaires transmis principalement par le bouche à oreille. Ils ont été analysés, décortiqués pour en définir tous les archétypes. Le prince changé en grenouille, délivré par le baiser d'une princesse, est un de ces immuables des contes, très souvent brocardés. Dans ce vaste mouvement d'écriture, actualisant ces récits de jouvenceaux et de jantes demoiselles, Ballade de Camille Pott tient une place de choix. Tout en reprenant les ingrédients classiques du conte merveilleux, Camille Pott les amplifie. Sorcière, princesse embastillée, prince grenouillé, se mue en sorcière usurte, mais bienveillante, mais pas trop, accompagnée d'une complice qui a choisi de vivre nue, princesse libérée préférant la soumission à son futur époux, le prince plutôt que la solitude dans une tour, qui avait une vue bien, mais pas top. Le prince élargit sa cour dans la mare avec des semblables épris de musique et de beaux sons. Camille Pott ouvre des espaces narratifs pour insuffler à son récit une modernité riche de nos questions de sociétés actuelles. Le récit est porté par un dessin tout en rondeur, une esthétique déjà à l'œuvre par des auteurs comme Vogt, Baudet, Jacovitti ou Fmur. Dessin et mise en couleur sont chargés d'une ironie implacable. Camille Pott dynamite en fait ses contes au poncif moderne seulement en apparence, répétant les vieilles recettes, cela jouant plutôt facile. Camille Pott prouve au contraire que le conte reste un espace narratif fécond, mais il y a quand même du taf. Nous sommes avec Camille Pott pour qu'elle nous emmène dans son Moyen-Âge merveilleux. Bonjour Camille Pott.
Bonjour.
Alors, vous avez eu un prix révélation, mais parlez-nous un peu de ce récit qui est un récit d'ampleur. Votre livre fait 144 pages. Alors, quel a été le déclencheur et comment s'est passée l'écriture ?
Alors le déclencheur, je dirais que ça a été, comme pour beaucoup de récits ces dernières années, le déclencheur ça a été la période du confinement. Une des seules choses positives qui est apparue pendant cette période, c'est que tous les artistes, les musiciens, musiciennes, au moment du confinement, s'étaient mis à partager gratuitement sur Internet des œuvres qui étaient produites simplement pour divertir le monde extérieur. Et moi, j'avais voulu participer à ce mouvement-là que je trouvais assez généreux et joyeux. Et en plus, j'avais besoin de m'occuper les mains, quoi. Du coup, j'ai commencé une série de récits courts que je partageais sur Instagram. Il s'est avéré que quelques temps plus tard, je me suis rendu compte que tous ces récits courts avaient le point commun de se situer dans un univers de contes décalés. Donc il y a d'abord eu une histoire de sorcière, puis ensuite il y a eu une histoire de grenouille, et enfin une histoire de chevalière et de ménestrel. Ensuite il y a eu le déconfinement, puis la vie a repris son cours, et puis je dirais deux ans plus tard, j'ai repris tous ces personnages et j'ai décidé d'essayer de les faire se croiser au sein d'un grand récit que j'ai proposé à la maison d'édition Atrabile et qui a eu l'élégance d'accepter ce projet qui était mon premier long récit.
Alors, comment avez-vous articulé, avec quelle idée? Poser autrement la question, c'est est-ce que dessin et écriture sont simultanés? Est-ce qu'il y avait une envie d'une écriture, d'une suite dialoguée, et puis après une mise en image? Comment procédez-vous?
Alors ouais, c'est tout à fait tout à fait dépendant l'un de l'autre pour moi, le texte et le dessin. C'est-à-dire que en fait, je suis incapable d'écrire un scénario sec sans images, et je suis aussi incapable de partir simplement d'images pour essayer de créer du récit. Donc en fait, mon système d'écriture, c'est que je fonctionne par scénettes. Voilà, j'ai des espèces d'envies comme ça, de dialogues, de blagues qui me viennent, ou de situations, et j'essaye autour de créer un échafaudage narratif suffisamment solide pour que ces scénettes tiennent les unes avec les autres, et à la fin, ça devient juste une sorte de petit jeu de puzzle qui consiste à essayer de boucher les trous qui me restent pour lier les scénettes les unes aux autres.
Est-ce que vous avez toujours une vision d'ensemble de votre récit au fur et à mesure qu'il avance? Parce que ce qui est assez étonnant dans Balade, c'est l'ensemble des personnages. Il y a, alors vous conviez, alors bien sûr j'ai parlé de la sorcière et de sa disciple bien particulière. Il y a les princes, ceux qui convoitent, la sœur, la mère. Comment approfondissez-vous vos personnages et comment les faites-vous parler? Est-ce que vous parlez à haute voix? Est-ce que vous donnez ces dialogues? Parce que là, le langage médiéval est riche.
Alors, je ne parle pas à haute voix parce que je travaille dans un atelier partagé où on est 14, donc ça serait un peu cacophonique. Alors, juste pour apporter une petite précision, je ne considère pas que Simonette soit la disciple de la sorcière. Je la vois plutôt comme une... En fait, je vois plutôt leur duo comme une sorte de béguinage où elles seraient compagnes l'une de l'autre au sens de deux personnes qui partagent le pain, qui partagent le quotidien. C'est plutôt pour moi des voisines et des colocataires qu'un rapport de disciple à maîtresse, parce qu'en fait aussi j'avais un peu dans ma façon d'approfondir les personnages, il y a des choses que moi je sais sur ces personnages mais qui sont pas dans le récit, qui me donnaient simplement la possibilité de donner à mes personnages plus de profondeur, et donc je me suis un peu inventé des histoires sur chacun de ces personnages et voilà, et donc tout ça pour dire que pour écrire cette histoire, j'ai constitué des binômes de personnages, parce que un des moteurs de Balade, c'est le fait que souvent dans les histoires, les femmes sont isolées dans les histoires des autres. Et du coup, j'ai voulu faire un récit dans lequel les personnages féminins n'étaient jamais seuls. Donc en fait, on a la chevalière et la princesse qui sont un premier binôme, la sorcière et Simonette qui en sont un deuxième, et même les méchantes, entre guillemets, sont en binôme, donc c'est la reine et sa fille. Et du coup, pour construire mon récit, en fait, techniquement, j'avais conçu une sorte de grand plan que j'avais affiché sur le mur face à mon bureau, avec des post-it de couleurs, et chaque couleur de post-it correspondait à un binôme. Et donc, je faisais avancer les post-it sur un chemin de fer de livre ou de magazine. Et en fait, c'est ça qui me donnait la vision globale de l'histoire, qui me permettait de m'assurer que il y ait toujours un équilibre dans les apparitions de binômes, parce que je voulais que ce soit un récit où il y ait le moins possible de hiérarchie de personnages. Je voulais qu'il n'y ait pas on peut pas vraiment dire qu'il y a un personnage principal. Il y a des personnages qui sont le fil rouge de l'histoire, qui sont par exemple les grenouilles, mais je crois pas qu'il y ait un personnage principal dans ce récit. Et voilà, donc ça a été un peu ma technique d'écriture pour avoir une vision d'ensemble. Et puis après, j'allais un peu, voilà, chemin faisant, un peu de façon instinctive, j'essayais de gérer ces questions narratives, quoi, parce que après, c'était aussi ma première expérience comme ça d'écriture sur le long terme.
Et pour les dialogues, alors, donc une fois que vous avez votre grand panneau, que vous passez à la réalisation de chaque planche, comment se placent les dialogues? Comment les imaginez-vous? Parce que c'est un des points très puissants de votre écriture aussi.
Alors les dialogues, c'est pareil, j'allais un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que certains dialogues étaient déjà écrits, ils venaient justement de ces scénettes dont je parlais, qui étaient un peu mes envies premières d'histoire, quoi. Donc par exemple, il y a une scène où la princesse et la chevalière se posent des questions de reconversion professionnelle, et ça c'est une des premières choses que j'ai dessinées, quoi. C'est vraiment une des premières fulgurances que j'ai eues. Donc des fois le dialogue était déjà écrit, et quand c'était pas le cas, j'avais oui, donc parce qu'en fait dans cette histoire, effectivement, une des particularités, c'est que les personnages parlent dans une sorte de vieux François avec lequel je m'arrange un peu, quoi, une langue entre le vieux français et le français contemporain. Et du coup, pour les moments où le dialogue n'était pas encore écrit, soit j'écrivais un dialogue en français oral contemporain que je médiévalisais, donc j'y rajoutais plein de Y et de S, soit j'utilisais des fiches de vocabulaire que je m'étais préparées en amont à partir de dictionnaires médiévaux dans lesquels j'avais pioché plein de mots que je trouvais drôles ou intéressants ou interpellants. C'était des fiches de vocabulaire comme ça, classées par catégorie de vocabulaire. Donc j'avais la fiche bastaille, j'avais la fiche jambe, j'avais la fiche injure. Et voilà, et donc je faisais un peu ma cuisine à partir de ces choses-là. Et généralement, le dialogue vient d'un projet de blague, quoi. J'ai une blague en tête et il faut que je fasse en sorte que les personnages arrivent jusqu'au point qui va me permettre de faire cette blague.
Je vous propose une pause musicale, Camille Pott, avec donc un artiste, et c'est le morceau Abreuvoir, et c'est un artiste avec qui vous avez aussi fait de la musique. On en reparle tout à l'heure.
Ok.
À tout de suite.
Belle à Palan, le soir elle rentre, se coucher dans le lit du roi. Le métayer a fui son antre, abandonnant trésor et chat. Baignée dans l'eau jusqu'à mi-ventre, elle écrase un peu plus l'endroit où un fermier des années 30 avait caché tous ses carats. L'or est caché dans la revoir. Regarde le sol, les jonquilles. Sa nature a changé et elle veut piétiner. L'or d'épi dérobé, l'or d'épi dérobé. L'or qui est caché dans la revoir.
L'or est caché dans l'abreuvoir. Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Camille Pott pour à la fois la parution de son livre, alors ça fait quelques mois, Balade aux éditions Atrabile, qui a eu le prix, le fauve de la révélation, au dernier festival d'Angoulême. Alors Camille Pott, vous avez fait de la musique aussi donc avec Antoine Apex.
Antonin. oui, mais alors c'était vraiment, comment dire, c'était vraiment un hasard et ça ne se reproduira pas. Enfin, c'était formidable et on a fait une chanson ensemble qui s'appelle Toile d'araignée, que j'aime beaucoup notamment parce qu'elle est peuplée de... C'est une chanson qui est peuplée de bestioles, comme d'ailleurs mon livre est peuplé de grenouilles et comme la chanson qu'on vient d'écouter est peuplée de vaches libérées. Donc j'adore cette chanson, mais ce que j'avais pas anticipé en faisant de la musique, c'est qu'il faudrait après monter sur scène pour chanter cette chanson. Et je pense qu'on ne peut pas faire plus éloigné du métier d'autrice de BD comme expérience que celle de monter sur scène pour chanter devant des gens. Et c'est vraiment pas quelque chose que j'ai trouvé agréable du tout. Mais voilà, ouais, justement, j'ai fait un morceau avec Antonin Apex.
Alors, Camille Pott, il y a beaucoup d'ironie dans votre écriture, aussi bien dans le dessin, même dans la mise en couleur, qui se veut très classique. L'herbe est bien verte, le ciel est bien bleu, et pourtant il y a cette ironie très, très forte. Qu'est-ce qu'elle vous permet, l'ironie ? C'est un moteur pour vous ?
En fait... Je sais pas si c'est vraiment de l'ironie, je sais pas si c'est pas plutôt... Parce que en fait, dans le sens où je vois tout à fait ce que vous voulez dire, effectivement, l'herbe est presque trop verte, pour être honnête, quoi.
C'est ça.
mais en fait, ce que j'aime pas avec l'ironie, c'est que souvent, c'est un humour qui met la personne qui fait la blague à distance. C'est un humour du plus malin, quoi. Et c'est un humour qui permet de jamais vraiment se positionner par rapport à quelque chose. Et je crois que dans Balade, j'ai essayé de faire en sorte que mes prises de position soient claires. C'est-à-dire que Balade, c'est à la fois un hommage à la bande dessinée que j'aime et en même temps une mise au point par rapport à cette bande dessinée-là, dans le sens où j'ai aussi des choses à lui reprocher, quoi. Et du coup, je pense que cet humour, l'humour qui est présent dans ce récit, il me permet aussi un peu de pudeur. C'est-à-dire que quand il y a un voile humoristique sur les choses, on peut aussi se permettre de créer des dialogues un peu plus intimes, d'être un peu plus franc sur ses conditions politiques que dans un récit où tout est au premier degré et où du coup les choses risquent d'être trop je sais pas, peut-être un peu trop rébarbatives, quoi. Et l'humour, ça permet aussi une liberté, une légèreté de ton qui donne peut-être un peu d'air à ces questions qui peuvent être parfois un peu lourdes, un peu tristes ou qui peuvent mettre un peu en colère, quoi.
Qu'est-ce que vous avez à reprocher à la bande dessinée ironique?
En fait, moi j'ai grandi avec la bande dessinée. Dans ma famille, on en lit beaucoup et c'est vraiment un médium que j'aime énormément et que je prends très au sérieux, quoi. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas, pour moi, la bande dessinée n'est pas du tout un art mineur. Et le fait que ce soit un médium populaire fait partie des choses qui me plaisent énormément avec cet art-là. Cependant, il y a des choses. Il y a le fait que, par exemple, ce soit un univers qui a été très exclusivement masculin pendant très longtemps, qui fait qu'en fait on a eu un peu une sorte d'histoire unique dans les récits qui sont proposés par la bande dessinée, notamment je pense à la figure des femmes dans la bande dessinée, ce que je disais au début, un des moteurs de balade, c'était justement ce truc de prendre ma revanche sur le fait que les personnages féminins aient été autant isolés par leurs auteurs dans les récits dans lesquels elles habitent, quoi. C'est un truc qui m'attriste, et c'est aussi et ça a été aussi pour moi l'opportunité de raconter des histoires qui n'ont pas encore été racontées, donc c'est aussi un super moteur créatif, quoi, de pallier à ces manques-là. Mais voilà, je pense que s'il y a bien une chose que je peux leur reprocher, c'est cette petite paresse de n'avoir pas fait de personnages féminins que je trouve je sais pas, originaux, satisfaisants, profonds, différents, amusants, indépendants.
Alors, une question sur le dessin. J'ai évoqué quelques artistes comme Baudet, Jacovitti, Fumur, dans une certaine partie. Quel est votre panthéon et qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser cette esthétique très ronde ?
Alors, en fait, moi, dans mon panthéon, il y a des dessinateurs qui font des choses qui ressemblent pas du tout à ce que je fais. Enfin, Fumur fait vraiment partie de mon panthéon, cela dit, notamment pour cette question de la couleur. Mais après, dans mon panthéon, il y a des gens qui font vraiment des choses super différentes. Je trouve que Franquin est un immense dessinateur. J'aime beaucoup le travail d'une dessinatrice qui s'appelle Anna Eichisch, qui est une dessinatrice de bande dessinée allemande. Qui a fait une bande dessinée qui s'appelle The Artist, qui est formidable. J'aime aussi beaucoup, par exemple, le travail de Émile Ferris. Donc, c'est vraiment des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec mon trait, mais dans lesquelles je trouve c'est des gens qui, bon, pas pour Émile Ferris, mais pour les autres, c'est des gens qui réussissent à aller à l'essentiel avec leur dessin, et ça, c'est quelque chose que j'admire énormément. Et dans mon trait, la rondeur, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment choisi. C'est simplement que, en fait, je crois que une des choses qui me plaît le plus dans le geste du dessin, c'est les arcs de cercle. C'est une des choses que je trouve le plus agréable à dessiner. Et en fait, comme c'est quelque chose que je trouve agréable à dessiner, j'essaye d'en mettre le plus possible partout. Et donc ça a donné ce trait qui est très rond, qui est aussi très élastique. Et c'est vrai que le fait que mon trait soit élastique, c'est assez pratique pour créer des personnages qui sont très expressifs, pour s'arranger aussi un peu avec les réalités anatomiques ou avec la perspective. C'est, en fait, la courbe, c'est aussi un bon moyen de s'éviter les angles, quoi.
Comment ça se passe sur la table à dessin ? Vous êtes très à l'énergie, ça va vite, vous êtes vraiment dans l'intensité de la mise en image et de finalement cette écriture dessinée au fur et à mesure, ou est-ce qu'il y a un côté beaucoup plus posé, très, très calme,
En fait, je pense que c'est très intense, mais que ça se voit pas du tout. Donc, je pense que si quelqu'un me regarde de l'extérieur, il va avoir l'impression que je suis extrêmement calme. Je suis généralement penchée comme le bossu de Notre-Dame sur mes feuilles ou sur ma tablette. Et tout se passe à l'intérieur, quoi. Et après, une chose que je sais sur mon dessin, c'est que je refais énormément. En fait, généralement, j'ai 3 brouillons pour un dessin final, quoi. Parce que je repasse, je refais, j'essaye d'atteindre la bonne courbe, le bon trait, et que généralement je supporte pas trop de voir quelque chose que j'ai pas maîtrisé dans mon dessin. Faudrait peut-être que j'apprenne à lâcher un peu à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime bien avec la tablette graphique, c'est que ça me permet de retourner en arrière, mais en fait je crois que je suis en train de me créer des mauvaises habitudes à cause de ça. Mais ouais, l'annulation rapide de la tablette graphique, c'est quelque chose qui me plaît, parce que je peux vraiment réussir à saisir la courbe juste dans mon dessin, quoi. Mais justement, je crois que là, par exemple, dans mon prochain projet, je vais essayer de de tout faire à la main et de m'étendre un peu, quoi, d'essayer de lâcher un peu l'idée de perfection pour réussir à avoir plus de spontanéité, plus de légèreté dans mon trait.
Qu'est-ce que va permettre ce prix et ce premier roman graphique ? Comment se dégage l'horizon, Camille Pote ?
Bah alors ça, j'avoue que je sais pas vraiment. J'imagine qu'un prix à Angoulême, ça doit avoir un impact sur les ventes. Parce qu'il y a ce petit macaron après sur la bande dessinée, donc je pense que ça doit être prescripteur. J'imagine auprès du public et des libraires. Donc ça, c'est déjà une bonne chose parce que c'est vraiment un métier qui est précaire, quoi. Le métier d'autrice de bande dessinée, c'est des toutes petites avances et puis des tout petits pourcentages sur les ventes. Chaque coup de pouce est le bienvenu. Concrètement, sinon, je sais pas vraiment. C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Je pense que ce qui est chouette, c'est que j'ai été identifiée aussi par ce milieu-là avec lequel j'ai envie de travailler. J'imagine que grâce à ça, je vais pouvoir aussi me présenter et interagir avec des gens avec qui ça m'intéresse de travailler. C'est très encourageant de savoir que j'ai été lue, que ça a été apprécié. Ça me donne envie de continuer, quoi. Donc ça, c'est... Après, je pense que j'aurais continué même sans prix, et puis même si personne n'avait lu. Mais c'est chouette de se sentir que son travail a été apprécié. C'est toujours agréable, quoi.
Merci beaucoup, Camille Pote. Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre, ses références. Donc balade avec deux L, c'est la balade des conteurs et des troubadours. Donc c'est publié par les éditions Atrabile, éditeur Genevois. Les 144 pages de votre roman graphique sont au prix de 22 €. En tout cas, très bonne continuation, et puis on sera présent pour les suivants.
Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Bonne journée.
Merci. Steps, size, and the way back from the dead. Tiptoe back up my brain. Je voudrais terminer cette émission avec un autre prix d'Angoulême, c'est le prix Écofauve. Donc c'est une sorte de nouvelle collection qui se met en place, ça s'appelle Vers de rage, ça fait bien sûr écho à la collection de documentaires d'investigation scientifique publique sur des problématiques environnementales. Et le livre qui, dans cette série-là, s'appelle Les enfants du plomb. Alors, précision sur Vers de rage, donc qui sont des enquêtes portées au départ par un journaliste, Martin Boudot, qui est un véritable lanceur d'alerte et qui, par ses documentaires, qui ont donc une véritable diffusion importante, c'est produit par la société Première Ligne. Il y a vraiment la volonté de s'occuper de problèmes scientifiques, environnementaux, et qui vont, par l'investigation, porter vraiment un regard, faire un focus sur une situation qui le nécessite absolument. On a eu, par exemple, dans les enquêtes de Vers de rage, notamment une sur la réglementation des polluants éternels, les PFAS, la pollution de l'air dans le métro, la contamination à l'amiante dans les écoles ou les conséquences des rejets de l'industrie pétrolière. À chaque fois, ce sont des enjeux très importants. Et le travail d'investigation, on va pleinement le retrouver dans cette adaptation en bande dessinée du documentaire réalisé donc par l'équipe de Vers de rage. Alors, l'autre aspect très très important, c'est l'autre question, c'est en quoi la bande dessinée va permettre d'apporter un plus alors que le documentaire est déjà réalisé. Alors, les documentaires pour la télévision publique ne restent pas forcément très longtemps en ligne et vous pouvez chercher par exemple Les enfants du plomb, vous allez avoir eh bien des résumés, mais vous ne trouverez plus le documentaire lui-même ou alors avec d'autres canaux, mais c'est pas ce qui va venir immédiatement dans vos moteurs de recherche. La bande dessinée aura pour elle de garder une permanence et d'être plus facilement accessible, même si bien sûr qu'une fois qu'elles sont épuisées, elles ne sont pas forcément rééditées, mais quand un titre marche, il l'est très facilement. Alors, la bande dessinée va permettre aussi d'avoir tout à fait la même rigueur scientifique, la même qualité d'investigation et une mise en œuvre en récit et en images qui va parfaitement utiliser la puissance du médium. Alors, comme pour Camille Pott, pour Carole Lebel, parce qu'elle s'appelait Carole et non pas Camille, je l'ai appelée pendant toute la chronique Camille, donc Carole Lebel. Le dessinateur Stéphane Piquet a un dessin très incisif, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire il y a un dessin tendu qui va représenter avec efficacité, mais qui synthétise, donc qui n'est pas dans le réalisme où il faut dessiner tous les polluants de la rivière, tous les morceaux de carton, mais vraiment représenter pour évoquer une scène et lui donner sa force. Quand vous voyez Martin Bondo au travail, eh bien, il est dans une pièce, ça ne fait aucun doute. Il est à son bureau, devant son ordinateur, il y a un travail d'investigation qui est fait, il y a un cadre, un contexte qui apparaît immédiatement à l'image. Donc, ça va être la très grande force de Sébastien Piquet d'utiliser cette synthèse du dessin et de lui conserver son énergie, sa tension dans le trait tout au long de ce récit. Alors, les enfants du plomb, parce que parlons quand même bien évidemment de ce que ça représente, nous sommes à Evin Malmaison. Comme dans beaucoup de moments, il y a une annonce par mail ou une personne dit, voilà, il y a telle situation, c'est grave, il faut absolument que vous veniez. Très souvent, la gravité n'est pas tout à fait la même. Là, la personne qui contacte Martin Bondeau pour la partie pollution au plomb à Elvin Malmaison, il y a un petit côté, pas du tout d'emphase, mais une sorte d'urgence. Et l'équipe donc de Vert d'Orage va commencer son enquête. Il y a des rencontres avec des personnes de terrain, et puis il y a toute la partie scientifique. Et pour l'occasion, Martin Bondeau a un appareil qui lui permet de tester la teneur en plomb d'un sol, d'un végétal, ce qui est extrêmement important. Et les conclusions vont être immédiates. Il y a un seuil de 300 mg par kilo de terre qui fait qu'on doit évacuer la zone et qui est contaminée ainsi. Et sur le site de Metal Europe, qui était soi-disant nettoyé, ils sont arrivés à des doses de 200 000 mg par kilo de terre. Donc toute la terre des environs va être contaminée dans des jardins publics, des cours d'école où des enfants vont jouer avec la terre, et il y a une urgence sanitaire qui s'impose tout de suite à l'équipe de Vert d'Orage. Et la grande force de cette bande dessinée, c'est par le récit d'avoir cette capacité à nous immerger dans la démarche scientifique, dans l'investigation journalistique, dans les conclusions qui vont être tirées, dans l'alerte des pouvoirs publics, dans les réactions des différents élus locaux, décideurs, industriels et scientifique même. Il y a une séquence tout à fait cocasse où un scientifique a fait des analyses, parce qu'il était médecin par rapport à l'entreprise de Metal Europe, et donc il a fait beaucoup de conclusions qui n'ont jamais été suivies. Et donc, quand des années après, eh bien Martin Bondeau va le voir, il y a une sorte de « enfin, vous vous êtes décidé », alors que ces analyses montraient une situation déjà très ancienne et extrêmement critique. C'est un livre passionnant à lire. Ça rappelle tout à fait celui des algues vertes, où on avait eu cette dénonciation de cette pollution aux algues en Bretagne, avec cette inertie des pouvoirs publics. Là, on retrouve des situations équivalentes. Au niveau de l'intensité de la pollution, l'équipe de Vert d'Orage dit tout simplement « c'est un des sites les plus pollués de France ». Et donc, face à ça, que font les pouvoirs publics, et il y a une intensité, en tout cas, dans l'écriture de ce récit, qui a donc été récompensée par l'éco-fauve du nom du sponsor, mais qui met l'accent sur cette lutte pour écologique, et c'est une pleine réussite. Il y a, grâce à cette bande dessinée qui fait suite au documentaire, mais en tout cas une présentation d'une situation à connaître absolument. Vert d'Orage, les enfants du plomb de Martin Bondeau et Sébastien Piquet. C'est publié par Michel Lafont, qui n'est pas un éditeur de bande dessinée, mais qui, en tout cas, a commencé maintenant à en publier régulièrement. Les 96 pages de ce récit sont au prix de 22 euros. Merci, Marin, pour cette technique. On se retrouve la semaine prochaine avec Tommy Rodolfi pour son livre « Les météores ». Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade.
écriture dessinée.